Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'accord de transition au Soudan.
Oui, sortie de crise annoncée, de nouveau la crise. Les négociations entre civils et militaires sont suspendues pour 3 jours. Il y a eu des violences à Khartoum hier soir. Un accord sur une transition démocratique était effectivement annoncé hier matin, mais en moins de 24 heures, la situation s'est envenimée. 5 mois maintenant après le début des manifestations, la société civile qui a obtenu le départ d'Omar el-Béchir aura-t-elle raison de l'armée, pilier du régime? On voit ça avec vous, Clément Dehaye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes doctorant à l'Université Paris 8, chercheur en sociologie politique, spécialiste du Soudan et membre de Noria. Situation hésitante, je le disais, 9 personnes blessées par balle hier soir. L'armée et les représentants des manifestants s'accusent mutuellement d'attiser les violences. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le climat politique change si vite, en si peu de temps, entre hier matin et hier soir?
Alors, le climat politique avait commencé à changer dès lundi, puisqu'il y avait déjà eu des affrontements près du sitting, apparemment des forces liées au régime, donc des forces qu'on appelle les Rapid Support Forces, qui sont une milice composée d'anciens miliciens du Darfour, donc responsables en grande partie des massacres au Darfour, qui sont un des piliers du régime actuel, du régime de transition militaire, ont essayé de faire bouger les manifestants du sitting et ont tiré. Il y a eu apparemment plus de 200 blessés et au moins 6 morts lundi. Et hier, à nouveau, des affrontements se sont passés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait pas pour l'instant, puisque le régime accuse des membres de fidèles d'Omar el-Béchir d'avoir tiré sur la foule, mais aussi les manifestants de provoquer les militaires. Donc pour l'instant, on est dans une situation où on ne sait pas exactement ce qui se passe, où le gouvernement de transition militaire aujourd'hui accuse également les manifestants de ne pas jouer le jeu de la négociation. Donc on était très proche d'un accord hier encore dans la journée, malgré les affrontements de lundi, accord qui vient de s'évanouir apparemment.
Et on va dire un mot de cet accord. Encore une fois, alors quelle interprétation vous feriez de ces événements et de ces tirs? Vous le disiez, les Rapid Support Forces qui semblent, selon plusieurs témoignages, tirer effectivement sur les manifestants, elles-mêmes qui ont été dirigées par le numéro 2 du Conseil militaire, Emeti. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une crispation des forces de sécurité face au sitting, face aux artères bouchées, ou qu'il y a un double jeu de certains du Conseil militaire?
Alors, lundi, Emeti, du coup, le chef des soldats qui ont tiré, des miliciens qui ont tiré sur la foule, disait que ce n'étaient pas ces soldats, etc. Après la journée d'hier où les RSF ont à nouveau tiré sur la foule, il n'y a plus vraiment de doute que les ordres viennent du Conseil militaire, au moins de Emeti, probablement de d'autres personnes. Par contre, on ne peut pas dire avec encore énormément de clarté qui, à l'intérieur du régime de transition militaire, donne les ordres pour essayer de tirer sur la foule et pour faire capoter ces accords. En tout cas, il est sûr qu'il y a une stratégie de la part de certains acteurs militaires et armés au Soudan pour empêcher que ces accords de paix aboutissent, car ces accords limiteraient énormément le pouvoir des acteurs militaires et de la sécurité soudanaise.
Et alors précisément, ces accords, qu'est-ce qu'ils contiennent et qu'est-ce qu'ils apporteraient? D'abord un conseil souverain, un cabinet, une assemblée législative. C'était un peu, disons, la clé de voûte qui manquait à cette révolution, ou plutôt la première pièce de la transition démocratique réellement?
Alors oui, cet accord de transition était quelque chose sur lequel se battaient depuis un moment les forces d'opposition, donc depuis plus d'un mois, avec le TMC, donc le Transitional Military Council. Cet accord créait donc un corps législatif qui aurait été souverain et qui aurait nommé un cabinet ministériel qui se serait occupé de la majorité des décisions. Le conseil souverain dont vous avez parlé, qui aurait été lui dominé par les militaires, ne se serait occupé que de la politique extérieure et des affaires de guerre. C'est-à-dire que dans cet accord, l'essentiel du pouvoir, à part le ministère de la Défense, serait revenu à des civils et aux forces d'opposition qui négocient aujourd'hui avec le pouvoir. L'armée aurait été ainsi circonscrite à un minimum de pouvoir.
Oui, donc il y avait la garantie d'un pouvoir civil. De la même manière, dans l'Assemblée législative, il y a un chiffre de 67% des futurs 300 membres désignés parmi les membres de l'Association pour la liberté et le changement. Qu'est-ce que ça signifie que les 33% sont pour l'armée?
Alors,
les 33 restants, oui.
Ces 33% restants, ce n'était pas encore clair jusqu'à hier. Ils devaient éclaircir justement à qui devaient revenir ces 33% hier. Mais ce qui se disait, c'est que cela aurait été séparé entre un certain nombre de groupes islamistes supportant l'ancien pouvoir et les groupes armés du Darfour et du Sud-Soudan qui, eux, ne sont pas part de la déclaration pour le changement et la liberté. Et donc ces 33% auraient été séparés entre des partisans de l'ancien régime ou qui avaient quitté l'ancien régime avant sa chute et des membres des groupes armés.
Et donc face à ces avancées, disons politiques, il y aurait donc une crispation de l'armée, de là à dire qu'il y aurait deux voire trois factions dans l'armée désormais.
Alors le problème de l'armée et des services de sécurité au Soudan, c'est qu'elles sont pléthoriques et évidemment assez divisées. Donc les services de sécurité même, donc la NIS, qui sont les services de sécurité intérieure, ont été mis sous tutelle et ne sont plus très actifs aujourd'hui. Par contre, les RSF, qui sont donc la ministre dont on parlait plus tôt, eux sont les principaux responsables de la sécurité à Khartoum aujourd'hui. Donc c'est une ministre qui vient des provinces et qui a été impliquée dans la guerre au Darfour. Eux sont les principaux soutiens du régime actuel, donc de la junte militaire actuelle, sachant que les militaires, eux, ont aussi plusieurs branches d'armée. Certaines de ces branches auraient été, d'après des militaires sur place, auraient été désarmées. Et les militaires plutôt fidèles à la révolution, qui ont protégé les manifestants au début du sitting, donc le 6 avril, ont eux été dispersés en province. Et donc, il semble qu'il y ait une forme de reprise même en main au sein de l'armée actuellement, et que cette reprise en main soit menée au travers des RSF, donc des miliciens fidèles au numéro 2 du régime.
Et donc ne resterait à Khartoum effectivement que les plus durs éléments de l'armée. Et réciproquement, alors, quelle société civile a en face d'elle cette armée pour une révolution qui a commencé hors de Khartoum au début, plutôt parmi les classes, on va dire, populaires, et puis finalement qui est devenue une révolution de classe moyenne et éduquée et dans la capitale?
Alors, cette révolution, qui en effet, comme vous l'avez dit, est devenue une révolution de classe moyenne dans la capitale, est restée quand même une révolution populaire dans les autres villes qui sont toujours actives. Il y a toujours des sittings et des manifestations dans les autres villes. Il y a encore à Kassala, à Port-Soudan, à Adbara, à Ouad Medani et à Niala, au Darfour. Par contre, elles sont représentées par un certain nombre de forces politiques. Ces forces politiques sont rassemblées au sein de la Déclaration pour la liberté et le changement. Cette déclaration pour la liberté et le changement a été lancée par l'Association des professionnels soudanais. L'Association des professionnels soudanais est l'organisation, est une sorte de syndicat qui a appelé à manifester pendant 4 mois et qui a été rejoint au sein de la force de la déclaration des libertés et du changement par l'ensemble de l'opposition au régime politique. Aujourd'hui, c'est cette plateforme, donc cette déclaration de liberté et changement, qui menait les négociations jusqu'à hier.
Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle tient la rue, entre guillemets, puisque vous l'avez rappelé en début d'entretien, les militaires accusent une partie des manifestants, disons, d'entretenir les violences via les barrages. Et on voit qu'ils ont très envie de dégager un certain nombre d'axes de circulation.
Alors, la rue est plutôt tenue par ce qu'on appelle les comités révolutionnaires. Donc, ce sont des comités qui ont vu le jour au fur et à mesure de la révolution. Qui sont des comités locaux qui ont vu le jour dans chaque quartier, donc qui sont nés dans chaque quartier, notamment sous l'impulsion des étudiants mobilisés. Et aujourd'hui, le sitting est largement organisé et dominé par ces comités révolutionnaires. Ces comités révolutionnaires travaillent évidemment avec les forces d'opposition, mais les forces d'opposition politiques classiques, elles sont relativement affaiblies après 30 ans de dictature et de persécution, et donc ont une présence dans la rue relativement faible, à part quelques partis qui gardent encore une présence dans la rue, comme le Parti communiste soudanais ou le Soudan Congress Party.
Eh bien écoutez, merci pour ce tableau très complet ce matin, Clément Déhay. On suivra dans 3 jours la reprise des négociations. Merci, je rappelle que vous étiez doctorant à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut de Recherche Noria.